Le psaume sous les étoiles, chapitre 12. Le lendemain, nous avions rejoint Castanet au bois de Massevac, sur les pentes de l'Égoale. Mon frère Nicolas fut si ému de nous voir qu'il se mit à pleurer et à rire tout à la fois. Dans le camp, la nouvelle de notre arrivée fit grande impression, car le frère Moulinès avait annoncé la veille dans l'Inspiration qu'un secours venait du Levant guidé par l'Esprit. On se pressait autour de nous. On voulait voir Florette, dont le renom emplissait les Cévennes. On lui baisait les mains, on l'acclamait. « Florette » criait-on, « c'est Baduel qui vient. Servante de Dieu, l'Esprit t'envoie, qui donc pourra nous vaincre ? Elle est douce comme la colombe, forte comme la lionne. Elle répand la parole et sait brandir la hache. » Mariette, femme de Castanet, s'était jetée dans les bras de Florette. Elle l'a baisée, disant en paroles bibliques « Tu es légère comme la jeune biche, dans la garrigue, aux Pays-Bas, tes pieds ont foulé le thym et l'aspic, l'âme des romarins s'exhale de toi, on te respire comme la marjolaine. » L'accueil de ces pauvres montagnards nous réchauffait le cœur. Nous trouvions d'ailleurs Castanet dans une vive allégresse. On venait de lui rendre sa femme, cette jolie Mariette, que nos puissances nommaient par dérision « la princesse de l'Égoale ». Elle lui avait été enlevée le mois dernier dans une surprise par les Miquelets de Palmerolles et traînée de géole en géole jusqu'à Nîmes, où on avait voulu la garder comme otage. À quoi le bon Castanet avait répondu en dévalant comme la trompe sur le bourg de Valrogue, d'où il ramenait une dame de haute noblesse apparentée, disait-on, au Lamoignon de Baville. Puis il avait écrit à Montrevel qu'il ferait à la dame ce qu'on ferait à Mariette. Et aussitôt nos puissances de traiter avec lui et de lui rendre sans tarder sa femme par échange avec cette comtesse, laquelle, racontait-on, depuis sa courte captivité chez les Ozars, ne se lassait pas de célébrer partout leur courtoisie galante, au point que l'intendant de Baville s'en était ému et lui avait fait signifier qu'elle eût à tenir sa langue. L'air vif des hauteurs nous enivrait. L'aspect de ces monts verdoyants où chantaient des eaux vives faisait fuir de nos âmes les songes noirs. Nous fraternisions de tout cœur avec ces Cévenols aux yeux clairs qui, après le culte, nous régalèrent d'un festin savoureux. Car le prévoyant Castanet ne manquait de rien, ayant un peu partout dans la montagne des troupeaux et des provisions. Mais quelles ne furent point notre joie et notre enthousiasme quand, sur les 3 heures de tantôt, survint Roland avec son escorte. « Qui vive de la part de Dieu ? Enfant de Dieu, vive l'épée de l'Éternel !» Ceux de Castanet criaient « Roland, Roland, rescousse à la Cévenne !»« J'arrive, ami, disait Roland. J'ai 600 hommes sous le gazéral. J'ai suivi Jean Peyrobe à la piste. Nous n'avons pu retenir nos cœurs. » Et nous nous embrassions les larmes aux yeux. « Tu le vois, Jean, disait Florette, et faudra-t-il toujours que tu voies pour croire ? Ce n'est pas en vain que l'esprit m'envoya. Roland vient, nous allons combattre, nous allons délivrer la Cévenne !» À la nuit, nos troupes se rassemblaient autour des granges de Montcalm et, dès l'aube, nous tombions par les 2 allées sur le hameau des Vanelles devant Vébron, où nous surprenions une compagnie de Miquelets qui se disposait à y mettre le feu. Après un dur engagement, nous étions sur le point de crier victoire quand Palmerolles et Julien en personne accoururent, amenant plus de 1 500 hommes, qui nous maltraitèrent fort et nous obligèrent à nous retirer vivement. Cet échec découragea Roland. « Vous le voyez, dit-il, nous ne pouvons rien contre tant d'ennemis. Notre seul recours est de forcer Julien à redescendre vers le Pays-Bas, en y allumant, nous aussi, l'incendie. » Et il se retira par Molaison et la Valfrancesque, nous laissant seuls désormais. Alors commença la grande épouvante. Ce fut une quinzaine effroyable de courses, d'escarmouches, de surprises, de fuites sous la pluie glaciale qui maintenant tombait sans discontinuer. Julien avait envahi le mandement de Rousse, puis la région de l'Égoale. Il brûlait le pays jusqu'à l'Espérou, pillait ou détruisait les approvisionnements de Castanet, nous traquait de ravin en ravin, de rocher en rocher. Et nous manquions de tout. Pour vivre, nous avions dû nous éparpiller en petites bandes. Je n'avais plus sous la main qu'une 30aine de combattants, suivis d'autant de paysans qui avaient manche et défaut à revers, et d'une troupe hagarde de femmes, de vieillards, d'enfants, dans une misère navrante. Florette était là, grave et souriante, qui les soignait et réconfortait, qui ranimait tous nos courages. comme des chasseurs à l'affût, nous harcelions les incendiaires, massacrant sans pitié ceux d'entre eux qui s'écartaient de leurs troupes, enlevant parfois à leur barbe dans les masses qu'ils allaient brûler, quelques pauvres vieilles oubliées au fond de son lit et que nous découvrions en l'entendant chanter un psaume. Nous savions bien que nous ne retardions pas d'une heure le brûlement de notre patrie. Le sentiment de cette impuissance aurait dû nous faire abandonner la place, et n'eût-il pas été plus sage en effet et profitable à notre cause que nous fussions redescendus vers la garrigue joindre la troupe de cavaliers? Une sorte de fascination atroce nous maintenait là, sur la lisière des brasiers. Nous ne pouvions en détourner nos pensées ni nos yeux. Pourtant, le 16 de novembre, comme l'ennemi, après avoir brûlé Molaison et les dépendances de Bar, se retirait vers Cassagnas et Saint-Julien d'Arpaon, nous nous établissions à Gabriac pour y prendre quelque repos. Nos hommes allant fourrager dans la patrie de Valborgne qui n'était pas condamnée au feu ni dépeuplée. Dans la grande salle déserte de la cousine Aberlinck, nous devisions ce soir-là avec Florette et Nicolas devant une belle flambée, quand je m'aperçus que ma bien-aimée était exténuée de fatigue et de privation. Je n'y avais point pris garde jusque-là. Je ne m'étais pas aperçu qu'une toux mauvaise la secouait souvent, que ses joues se creusaient, que ses yeux, qu'avivait toujours davantage une flamme fiévreuse d'amour et de foi, se cernaient profondément, devenaient immenses et d'une gravité profonde. Ah, la voir souffrir ainsi, quelle torture! « Je t'en supplie, chère petite, lui dis-je, retire-toi pour prendre un peu de repos. Nicolas te conduira au mas des Hermes, près d'Ozillargues, où nul ne te découvrira. Tu pourras t'y soigner chez les Verdaillans, qui sont de braves gens, et tu nous rejoindras ensuite. » Elle me regarda avec une tendresse infinie. « Si tu n'y viens, Jean, comment ferais-je pour y aller? Tu te dois à tes hommes. Les abandonnerais-je, moi? N'ont-ils pas grand besoin que la parole les soutienne ? Ces femmes, ces enfants, ces malheureux vieillards, pourront-ils supporter leurs maux si je ne leur souris? L'esprit ne m'envoie-t-il pas pour que je tienne leur tête droite et leur regard levé au ciel? Je ne saurais faillir à ce devoir suprême. » J'aurais dû ne pas admettre ses raisons et la forcer à se retirer quelque temps. J'ai toujours, hélas, le remords de ne l'avoir point fait. Mais je dois dire aussi que je ne pouvais songer sans déchirement à me séparer d'elle, à la laisser hors de ma garde et sans défense dans un mas perdu. Nous sommes restés ainsi 3 jours. 3 jours suprêmes à Gabriac dans une paix profonde. La pluie noire et froide cinglait les châtaigniers, mais au-dedans de cette vieille maison familiale qui allait être bientôt la proie des flammes, nous avions recréé un foyer chaleureux. Nous y vivions dans une sorte de rêve nuptial, oubliant tout ce qui n'était pas notre amour. Parfois, quand la pluie cessait un peu, nous allions tous deux sur le chemin du Rivet, nous regardions la vallée vers le joignant des ruisseaux. Le goût de notre baiser premier nous venait aux lèvres, il nous semblait que nous partions pour les épousailles. Ah, comme je la serrais dans mes bras et comme je sentais qu'elle partageait mon trouble d'amour. Certes, dans cette intimité imprévue et délicieuse, aucun obstacle ne s'opposait à la joie entière de nos êtres. Nous y tendions l'un et l'autre sans contrainte ni arrière-pensée et nous abandonnions à nos caresses les plus tendres. Mais toujours la parole de l'esprit revenait entre nous et saisissait Florette. « Adorée, lui disais-je, as-tu supplié suffisamment l'esprit ? Est-il possible qu'il voie nos souffrances sans en être ému? Et n'imitera-t-il pas un terme? Ne nous permettra-t-il pas d'être époux? » Et toujours sans se lasser, elle me répondait en souriant, « Les jours sont proches, ami chéri, n'en doute point, l'esprit n'oublie pas sa promesse. » Cette douce accalmie dans la tempête de nos destins ne devait pas durer, hélas. Le 21 de novembre, au petit jour, nous apercevions un amas de fumée qui s'élevait dans la montagne, sur l'autre versant de la Val Francesque. Saint-Martin-l'Ensucle brûlait. Un paysan fugitif qui montait dans les Castanets nous dit « Ils descendent vers Sainte-Croix, puis ils viendront brûler Gabriac. » Ainsi la vague de flammes refluait vers nous, avec l'épouvantable écume de Soudard sans feu ni lieu qui déferlait avec elle. Qu'allions-nous devenir? Que pouvions-nous faire? L'après-midi de ce jour fatal, Méric et Barbus, aux aguets vers le moulin du Rivet, revenait nous dire qu'on voyait une compagnie d'Allemands descendre les pentes de Saint-Martin vers Sainte-Croix. « Ils sont à peine 50 », ajouta Méric. « Nous pouvons les anéantir. » La pluie ayant cessé, le farouche Anguillas chassait les nuages, les balayait, nettoyait le ciel, le rendait à l'azur rayonnant. Nous ne pouvions supporter l'idée de voir brûler sous nos yeux les maisons qui abritèrent notre race. Et follement, je le reconnais, sans réfléchir à notre imprudence, n'ignorant pas que d'autres troupes étaient là, tout proches, je me laissai aller aux supplications de mes hommes et nous nous préparâmes à attaquer les Allemands dès qu'ils seraient dans le village. Laissant nos chevaux à Gabriac, nous passions rapidement Gardon à Gué en deux colonnes, sous la canale et vers l'Oubrède, et nous enveloppions les incendiaires qui, déjà dans les demeures désertes, entassaient des fagots d'argelasse et des monceaux de paille, enduisaient les boiseries de goudron. Ce fut bref et terrible. Peu d'ennemis échappèrent à la fureur des nôtres, mais bientôt, deux compagnies d'Irlandais et deux de Miquelets nous attaquaient violemment, nous forçaient à repasser le pont en désordre, à nous retirer sur les hauteurs. Et comme la nuit se faisait noire, des flammes rouges fusèrent vers le ciel, y éteignant les étoiles, emplissant la vallée d'une aurore de sang. Sainte-Croix n'était plus qu'un brasier qu'attisait follement la bise. Des femmes, des enfants, groupés vers la salice, se lamentaient devant la catastrophe, hurlaient à la mort comme bêtes blessées. Florette alors cria « Fiance à Dieu, mes frères, et chantons le psaume de sa merci !» Et tandis que les faillards et les pins frissonnaient au vent sur nos têtes, le psaume s'envola vers les étoiles. « Ô toi, ô Dieu qui es là-haut, aux cieux, nous élevons nos yeux, comme un servant qui pressé se voit être, n'a recours qu'à son maître, et la servante a l'œil sur sa maîtresse, aussitôt qu'on la blesse, vers notre Dieu nous regardons ainsi, attendant sa merci. » Dans cette obscurité lugubre, à la vue des foyers d'enfer qui rougeoyaient, ces paroles porteuses de confiance indestructible épousaient la mélodie populaire, se fondaient en elle, devenaient pour chacun de nous une sorte de flamme intérieure qui nous éblouissait, nous exaltait jusqu'au ciel. Issu des profondeurs de notre terre-mère, ce thème limpide et grave s'enroulait aussi premier vers de baise, en ardente supplication, puis tout à coup éclatait sur les deux derniers comme un long tonnerre roulant dans les espaces, y proclamant les hautes certitudes, les espoirs infinis. Vers notre Dieu nous regardons ainsi, attendant sa merci. Oui, tous ces fugitifs attendaient la merci de Dieu, attestaient qu'elle ne leur faillirait point. La magie du psaume les transportait hors d'eux-mêmes, les rendait capables de sacrifices et de martyrs. J'aurais dû à ce moment rassembler tous les nôtres et battre en retraite sur Gabriac. La simple prudence l'ordonnait. Mais nous ne pouvions nous arracher à l'affreux spectacle. Ces vieilles demeures qui, une à une devant nous, s'engloutissaient dans les flammes, se liaient à nos plus chers souvenirs. Elles faisaient partie de notre vie. Il nous semblait que nous mourions un peu avec elles et nous demeurions là, béants d'horreur. Or, voici qu'aux lueurs des flammes, les Miquelets passaient la rivière, escaladaient les pentes, nous fusillaient de toutes parts, nous mettaient en pleine déroute. C'est alors, aux minutes à jamais maudites, que dans la confusion de la fuite, nous nous sommes trouvés, Florette et moi, séparés de nos compagnons, courant vers la canale, essayant de remonter le rivet pour gagner Gabriac. Mais déjà le chemin était barré par les soldats, et pour leur échapper, nous devions nous jeter dans les castanets du côté du banquet. « Frère, me dit Florette, suivons le sentier à Micotte. Dans une heure au plus, nous serons au Montredon, où l'ennemi ne viendra pas nous chercher, puisqu'on y a déjà tout détruit. » Sur l'autre rive, et jusqu'à Bias, la Taillade, le pont de Ravagers, Témélac, flambés comme d'immenses torches, éclairaient toute la vallée, faisaient danser des ombres fantastiques au creux des combes, parmi les châtaigniers géants. Nous nous arrêtions souvent, car Florette n'en pouvait plus. « Appuie-toi sur moi, chère petite, je te porterai, je suis fort. »« Ce n'est rien, Jean, c'est un moment de faiblesse qui passera vite. » Nous parvenions enfin aux ruines du Montredon. En proie à une émotion tragique et aux lueurs troubles du Val flambant, nous entrions à tâtons par une large ouverture dans ce qui fut naguère la grande salle du château. Mais, comme j'essayais de battre le briquet, voici que des clameurs retentissaient vers le fond de l'allée où bientôt des flambeaux parurent. Nous étions poursuivis. « Vite, cachons-nous, dis-je. » « Le mieux, Jean, serait de gagner la petite terrasse en tournevent, qui était déjà abandonnée avant nos malheurs et où on ne montait plus que par une échelle en bois. Te rappelles-tu, Idelette nous avait tellement défendu d'y aller que nous en mourions toujours d'envie. Si cette terrasse existe encore et que nous y arrivions, personne ne soupçonnera notre cachette. Par un hasard extraordinaire, la terrasse dont parlait Florette, accolée à la masse des bâtiments, était toujours debout, bien qu'à moitié ruinée, et une échelle en bois se trouvait encore là, qui permettait d'y accéder. Nous nous hâtions de nous en servir, et parvenus sur le petit belvédère, je retirai cette échelle à nous, quand les miquelets envahirent la salle et nous aperçurent. Mais déjà, l'échelle était hors de leur portée. Ils ne purent que tirer vainement sur nous et, furieux de nous avoir manqué, se répandre en jurons horribles. Je vis tout de suite dans quel danger nous étions. Je pensais bien que si mon frère et Méric vivaient encore, ils étaient déjà à notre recherche. Mais devineraient-ils par où nous étions passés? Et puis, ils étaient si peu nombreux, pourraient-ils nous délivrer des miquelets? Florette gardait tout son sang-froid. « Ne doute pas, mon frère, du secours de Dieu. Comme aux des baleines, il nous couvrira de son aile. » Autour du château, les ennemis couraient et criaient. Ils tirèrent d'abord quelques coups de fusil sur la terrasse, et nous entendions siffler leurs balles. Nous nous étions assis à l'abri de la murette à bahut, et ils comprirent vite qu'ils ne pouvaient nous atteindre. Une sorte de calme régna. Je les apercevais sur le chemin des étables qui allaient et venaient aux lueurs des torches et rapportaient de gros faits sans que je puisse reconnaître que c'était de la paille et des fagots. Le ciel resplendissait d'étoiles et Florette priait avec ferveur. Mais voici qu'une âcre fumée nous prenait à la gorge. Les miquelets tentaient d'incendier les ruines du château. Florette avança un peu la tête à l'extérieur et la retira aussitôt. « Le feu !» dit-elle. Nous allons mourir, mon frère, dans les flammes de la mort des martyrs. Et Dieu nous fait la grâce de mourir ensemble. Où furent nos berceaux? Elle se jeta dans mes bras et me serra éperdument. Ma Florette, qui nous dit que tout espoir est perdu, ne te semble-t-il pas que la fumée se dissipe un peu? Je suis sûr que Nicolas et Méric nous cherchent. Ils viendront à notre secours. Mais Florette regardait déjà vers les joies du ciel. Jean, mon frère, nous allons confesser le Christ. Est-il une gloire plus haute? Mon adoré, il faut que nous vivions pour nous aimer. Ah, quel amour terrestre au regard de celui que le ciel nous offre! Je ne te l'avais pas dit, Jean. Pendant les nuits de Gabriac, j'ai vu en songe ma sœur Isabeau qui se tenait debout devant moi et me regardait sans parler. Alors je la suppliais en pleurant de dire un mot. Hier, comme je la pressais encore, elle m'a souri et a levé la main vers le ciel. « Elle nous appelle, Jean. Nous allons la trouver près de Peyrobe le Juste, dans cette maison du Père où il y a plusieurs demeures. » Dans le silence maintenant, j'entendais battre nos cœurs. Je me révoltais contre le destin. Je n'aspirais qu'à vivre, et il me semble apercevoir une rumeur confuse parmi les castanets. « Écoute bien, petite, écoute, là-bas, vers le lointain. N'entends-tu pas la plainte folle du Javanel ?» Et je criais à perdre haleine. « Méric, Nicolas, à nous, sans quartier !» Mais rien ne répondit. « Tu t'es trompé, Jean. Le Javanel se tait. C'est l'Anguillas qui pleure dans les vieux châtaigniers. » Cependant, la fumée s'était dissipée. Comme il ne restait plus au Montredon que des ruines de maçonnerie trempées d'eau, les incendiaires n'arrivaient point sans doute à embraser le vieil édifice. Nous les entendions qui discutaient de nouveau et criaient. Puis, ce fut des coups profonds qui faisaient trembler sourdement les murs de la terrasse. On eût dit que les miquelets cherchaient à en atteindre les fondations. Nous nous tenions embrassés, les yeux fixés vers les brasiers lointains. La vallée, Jean, roule un brouillard de sang. Tout l'horizon est obscurci par la fumée. On ne voit plus les étoiles. Regarde mieux, Jean. Vois là-haut, sur nos têtes, comme elles brillent vivement. Quel éclat non pareil! Ainsi l'horreur humaine essaie en vain d'envelopper le ciel. Toujours au centre du halo, lui le regarde Dieu. Mais de nouveau la fumée s'élevait, plus épaisse cette fois. Bientôt par les fentes de la muraille, une flamme siffla, et je compris que les miquelets venaient d'établir juste au-dessous de nous un vaste bûcher, embourrant de fagots et de paille sur ses trois cannes de hauteur, l'espèce de demi-tourelle que couronnait la terrasse. nous allions être dévorés par le feu. Florette se dressa, tendit l'oreille. « Ah ! Dit-elle, mon bien-aimé, la promesse va s'accomplir. Entends-tu les saintes cohortes ? Elles chantent nos épousailles. L'hymne nuptial emplit l'espace. Gloire aux époux qui montent vers mon trône. Ils goûteront le délice éternel. J'ai retrouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne l'ai point lâché. Oh, amour infini que Dieu nous réservait. Nos baisers ont le goût du ciel où nous entrons. » Hélas, je n'entendais rien autre que la rumeur de l'incendie. À la lueur des flammes, les yeux de Florette resplendissaient. Je me plongeais dans leur profondeur adorée, comme dans un abîme infini. Nos lèvres ne se quittaient plus. Ô délices d'amour, plus fort que l'agonie. Mes pleurs se mêlaient à nos caresses éperdues. Elle était déjà dans le ciel, et je ne pouvais me détacher de la terre. Certes, je ne concevais point que je pusse vivre sans elle. Je voulais mourir dans ses bras. Mais un regret poignant me serrait le cœur de n'y avoir pas vécu, de n'avoir pas cueilli la manne de nos amours dans la joie des hommes. Maintenant, les flammes montaient autour de nous, élargissaient les fentes de la terrasse et essayaient de nous mordre. La fumée nous étouffait. Une intolérable chaleur nous investissait de toutes parts, cependant qu'au-dessous de nous, les miquelets nous injuriaient horriblement. À moitié suffoqués, nous nous étions laissés choir sur la terrasse et, enlacés, nous attendions la mort dans un dernier baiser. Florette souleva encore la tête et murmura « Adieu, chers êtres que j'aimais et qui restaient sur terre. Adieu, cabane du rivet, rose rouge de la terrasse, source fraîche de la grottée. Époux chéri, nous entrons dans la gloire pour nous aimer au siècle des siècles. » Je sentais que la vie nous quittait. Je ne respirais presque plus. Il me semblait que ma tête éclatait. Pourtant, dans cette demi-mort, je crus entendre un bruit de coups de feu tout près de nous et reconnaître la voix de Nicolas. « Jean, Florette, où êtes-vous ? » Alors, dans un effort surhumain, je criai « À moi, frère, à moi !» Et tout à coup, sous l'action du feu, les fentes des murs s'entr'ouvrirent et la terrasse s'écroula dans un fracas terrible. Et il me sembla que je sombrais dans le néant.